On a chanté que notre Seigneur Jésus règne. Règne Seigneur sur nous du haut des cieux, et nuit et jour nous crions vers ton trône, Abba Père. Jésus est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu et il règne. C'est le royaume de Dieu. Le royaume des cieux. Dans un texte que nous trouvons dans Matthieu chapitre 18, il y a une situation un peu étrange. Des disciples qui sont avec Jésus, qui leur parlent depuis quelque temps du royaume, et vous vous souvenez quelle est la parole de Jean-Baptiste pour préparer l'arrivée du Seigneur? Le royaume, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Jésus va reprendre cette parole dans son ministère, au début du ministère, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Matthieu chapitre 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mais mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange, dans les cieux, voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. L'heure d'aller se coucher, je prends souvent cette image, c'est toujours un mauvais moment à passer pour les petits-enfants, hein, à les manant au lit. Oh non. Non, 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 aucun enfant ne comprend la logique d'aller se coucher le soir, surtout quand il ne fait pas encore complètement nuit, comme les journées qui sont un peu longues là, et on dit mais il ne fait même pas noir, non, non, il faut aller te coucher. Et même devant la logique, ben il y a l'école demain, donc il faut aller te coucher tôt parce que demain il faut se lever tôt. Et Maëva petite ne faisait pas exception à la règle, et c'était souvent la guerre pour la mettre au lit, et vous avez vécu la même chose, et je sais que ma maman a vécu la même chose avec nous, avec moi, probablement, je m'en souviens plus, mais non, moi, j'étais un enfant sage. Et surtout, pendant les vacances, où la logique de se lever tôt le lendemain ne tient pas debout, parce que ben non, c'est les vacances, on peut se coucher. On peut se coucher à l'heure qu'on veut, mais enfin, faut pas se coucher trop tard quand même. Et on usait de plein de stratagèmes pour l'amener à se mettre au lit, sachant qu'elle avait plus d'un tour dans son sac pour rester éveillée, du style papa, j'ai peur, ou ah ben vous êtes deux et moi je suis toute seule, c'est pas juste. C'est une logique qui tient quand même. Et puis, il lui arrivait même d'avoir hâte du lendemain Et puis je me souviens encore qu'un dimanche soir, c'est le moment d'aller se coucher, et puis elle dit, j'ai hâte de me lever demain parce que demain il y a piscine à l'école. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez eu hâte de vous lever le lendemain matin? Fort vivement demain matin, vivement demain matin. Et c'est ça, l'attitude d'un enfant est merveilleuse. Parce qu'il y a en eux une passion pour la vie. Sans furiture, sans se dire, bon, oh, la vie, elle est difficile. Non, 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 non. C'est une philosophie de vie qui veut en manger un maximum. C'est du style, joue beaucoup, ris beaucoup, et laisse les soucis à ton père et à ta mère. Et c'est un puits sans fond d'optimisme qu'un enfant, généralement. Inondée par une foi, quand elle est nourrie dans son père et sa mère, une foi qui est immense, une dépendance, en disant, bon, les soucis, de toute façon, c'est mon père et ma mère qui s'en occupent. De quoi je serai vêtu, c'est mon père et ma mère qui s'en occupent. De quoi, qu'est-ce que je vais manger, c'est mon père et ma mère qui s'en occupent. Je crois que M. de La Fontaine nous a fait beaucoup de mal à ce sujet. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Et elle alla compter famine chez la fourmi, sa voisine, vous connaissez cela. Et la fourmi, nous dit-il, n'est pas prêteuse. Et elle lui répond, mais que faisiez-vous tout l'été? Je chantais. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Voilà l'inquiétude de l'homme pour le lendemain. Il faut mettre toujours de côté pour son propre et puis pour en avoir un peu plus encore. Et la vie est bien mieux que la cigale dans cette fable parce qu'elle est prévoyante. Elle ne compte que sur elle-même pour sa survie, contrairement à elle qui, elle, se laisse vivre au gré du soleil. Et Magdan, un humoriste qui a parodié cette fable en lui donnant cette morale triste, « Tu bouffes ». Tu bouffes pas, tu crèves quand même. Et c'est là l'inquiétude des disciples dans ce passage qui nous intéresse ce matin. Jésus leur parle depuis le début du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Et la grande question pour les disciples à ce moment-là, c'est de savoir qui est le premier. Et dans d'autres évangiles, on voit que Jean et Jacques sont en train de se disputer pour savoir c'est qui serait le premier. Et la mère vient en disant, bon, elle va même demander à Jésus de leur réserver une bonne place auprès de lui quand il sera dans les cieux, alors que Jésus était en train d'annoncer sa mort. Les disciples n'ont rien compris. Alors Jésus appelle un petit enfant à ses côtés, il le met debout au milieu d'eux, et il leur dit, croyez-moi, à moins que vous ne changiez complètement votre façon de voir et deveniez comme des petits enfants, vous n'entrerez dans le royaume des cieux. Jamais vous n'entrerez dans le royaume des cieux. Et il ajoute, si vous ne vous convertissez, c'est-à-dire convertir, c'est vraiment changer complètement, changer son regard sur la vie. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas complètement votre manière de voir, vous passerez à côté du royaume des cieux. Arrête de regarder la vie comme un adulte, Jésus dit à ses disciples. Voilà à tes yeux des enfants. Et ce n'est pas un conseil que Jésus donne pour dire, bon, si tu veux être heureux, hein, il faut changer ta perspective. Non, c'est un commandement. Arrête, cesse. Il y en a marre. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer comme ça. Vous allez être malheureux. Vous allez perdre le sens de votre existence. Nous disons rarement « j'ai hâte de me lever », mais plus souvent « j'ai hâte de me coucher ». Et combien de fois, avec Marie-Léna, on se met au lit, on se dit « oh, comme c'est bon de se mettre au lit et de dormir ». Et on est comme des enfants sur un point, c'est que comme eux, on gémit à propos de nos lits, mais les adultes, nous gémissons pour sortir du lit, alors que les enfants, c'est pour s'y glisser. Et Ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi, parce que quand on regarde l'existence des adultes, il y en a peu qui ont tous les jours une vie très excitante. Hein, de dire « Oh, vivement demain, parce que demain, ça va être comme ça. Une journée extraordinaire. Demain, c'est lundi, ça va être oh, la semaine. Je ne vous raconte pas la semaine. Je ne vous raconte pas la semaine. J'ai hâte qu'on soit demain. » Non, c'est pas comme ça. Et pourtant, Jésus nous encourage à regarder, à changer notre perspective. Et on en parle souvent de cela, et j'ai besoin, moi, pour ma part, de me le répéter souvent. De changer mon regard. Parce que ce n'est pas le regard auquel nous avons été formés dans notre société. On a été formés à regarder les choses complètement différemment. À regarder l'avenir avec beaucoup d'inquiétude. Pourtant, Jésus nous appelle à autre chose qu'à l'ennui et à encore moins. Rappelez-vous cette parabole du Christ en Matthieu 7, quand il parle à une qui est là, opprimée, sur le sermon sur la montagne, opprimée par la nation romaine, des gens qui n'avaient rien d'autre à faire, probablement à ce moment-là, pour Jésus. Hein, faut avoir le temps quand même hein, de se dire on va aller à la montagne, il est là-bas, bon allez, on arrête tout ce qu'on est en train de faire et on va là. On n'a rien à manger, mais tant pis, c'est pas grave, on y va, on va l'écouter. Faut vraiment se dire on a besoin de quelque chose de plus dans cette existence. Ne vous inquiétez donc pas, leur dit Jésus, de ce que vous serez vêtus ou de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez. Et ce n'est pas dans le sens de « qu'est-ce que je pourrais bien leur faire manger demain, un gratin de pâtes ou un beefsteak ?» Non, c'est pas ce genre d'inquiétude-là. Hein. Ou « qu'est-ce que je vais choisir comme cravate reste ce matin ?» C'est pas ce genre d'inquiétude-là. C'est bien le besoin existentiel dont Jésus parle. Et Jésus ajoute, ceux-là sont les païens qui les recherchent. Les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui n'ont aucune relation avec Dieu. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il y a un proverbe suédois qui dit que l'inquiétude donne grande ombre aux petites choses. L'inquiétude nous gouverne trop souvent. Et c'est par la peur que le diable règne dans ce monde. Et vous connaissez tous, on le rappelle, mais une des paroles de l'évangile, ou une des paroles de Jésus les plus fréquentes, c'est « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. La leçon de Jésus pour ses disciples et pour nous ce matin, c'est, à travers ce petit enfant, l'humilité. C'est le sentiment de faiblesse du petit enfant, mais de toute confiance dans son père. C'est sa dépendance entière dans son père. C'est encore la confiance avec laquelle il va regarder sa maman et il attend tout d'elle. L'écoute, l'interroge, la croit et l'aime. Et les dispositions de l'adulte, elles sont toutes contraires à cela. Soit à l'égard de Dieu, soit envers son prochain. On dit, dans la vie, « Mon fils, il faut être indépendant. Ne compte sur personne que sur toi-même. » On trouve ça, c'est une parole sage. En fait, c'est pas très sage. C'est pas très sage. Même si on peut trouver, en grattant un peu, quelques vérités. Mais en fait, c'est pas comme ça que Dieu veut nous apprendre à vivre. Et c'est pas comme ça que Jésus veut enseigner ses disciples à vivre. Il veut les enseigner à être dépendants du Père, dépendants de leur Père. Donc pour redevenir moralement semblable au petit enfant, il faut se convertir. Et c'est une conversion qui est de tous les jours. Se convertir, c'est un travail que de convertir son regard dans cette société et de le rendre semblable à celui d'un petit enfant. Et si nous échouons à faire cela, nous nous préparons à échouer. à vivre les bénédictions du royaume de Dieu. Non seulement dans sa réalisation future et glorieuse, mais surtout dans sa manifestation actuelle. Et c'est ça la nature du royaume des cieux. C'est être dépendant. La prière et la méditation sont des choses, on l'entend de plus en plus, des gens vous disent, ah bien, il faut méditer. Mais c'est vrai qu'il faut méditer. Et nous, on le sait depuis longtemps qu'il faut méditer. C'est pas, on sait qu'on a besoin de s'arrêter dans l'existence et de méditer. Aline était frustrée, elle était en colère. Pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas ses prières? Pourquoi Dieu ne l'aidait-il pas lorsqu'elle le suppliait? Et elle se mit à prier de moins en moins. Et puis un jour, elle se rendit compte qu'elle avait arrêté de prier, si ce n'est avant le repas avec ses parents. Et puis elle se rendit compte que la confiance dans la bonté de Dieu s'était complètement ternie. Sa confiance avait fondu à la hauteur de ses problèmes et puis du silence qu'elle ressentait dans sa vie. Il y a un nombre incalculable de chrétiens qui ont fait cette expérience-là, de l'érosion de leur prière qui est devenue parfois un filet de mots sans sens ou des boutons d'urgence. Hein, j'ai besoin de quelque chose, plic, j'appuie, Seigneur, donne-moi ça. Et la prière se résume à ça, Seigneur, aide-moi. Certains perdent même la foi quand les circonstances difficiles de la vie deviennent insensées et que Dieu n'intervient pas comme on pourrait s'y attendre. D'autres deviennent aussi trop occupés par l'existence pour continuer à s'intéresser, trop inquiets dans le lendemain en disant « Bon, bah, il faut bien que je m'occupe. Hein, si c'est pas moi qui m'en occupe, il n'y a personne d'autre qui va s'en occuper. » Donc il faut que ce soit moi qui m'en occupe, mais qui m'en préoccupe aussi. Et beaucoup se sentent aussi abandonnés et puis déçus par leurs églises respectives et puis par les autres chrétiens parce qu'ils font l'amalgame de mettre Dieu dans le même sac. Et il est facile de se mettre à dépendre de nos propres belles pensées aussi, d'un raisonnement philosophique quand nous perdons l'assurance que Dieu exauce nos prières. C'est parfois un amas de boue faite de lassitude et d'occupation, de peine qui nous font trébucher dans l'existence et puis parfois tomber complètement. Et on peut se demander alors comment pourrions-nous nous relever? Comment puis-je espérer voir l'œuvre de Dieu dans ma vie si je ne lui demande plus rien? Si je ne prie plus? Si je ne médite pas régulièrement sa parole ou en contemplant la nature? Je ne suis plus dans l'attente à ce moment-là. C'est l'humilité qui nous fait prier, c'est l'humilité qui nous fait méditer. L'humilité, c'est ce sentiment de dépendance vis-à-vis de Dieu, à l'inverse de ce que nous inculque notre société. Mais c'est aussi en priant et en méditant que nous deviendrons humbles. C'est un cercle vertueux. Et nous nous verrons tel que nous sommes. Et on a lu ce texte dans 1 Jean chapitre 3 lorsqu'il reviendra. Jésus veut nous faire ressembler à lui-même. Alors pour ça, il faut se lancer, il faut se discipliner. Il y en a qui le font, il y en a qui le font moins et d'autres qui le font pas du tout. Et il y a un proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors, comment prier? Je vous laisse avec la prière de Jésus que vous connaissez par cœur. Je vous invite à la méditer, peut-être à la prier. Mais ce n'est pas seulement cela, la prière. La prière, c'est une relation et on l'a déjà vu. Et peut-être je vais vous raconter encore cette histoire de cet évêque, mais parce que c'est une histoire qui... Cet évêque dont le bateau fait naufrage sur une île, alors qu'il... ça se passe au XVIIIe siècle. Et puis... Sur cette île, il rencontre trois autochtones et avec qui il rentre en relation. Et ces autochtones commencent avec les jours et les semaines, ils arrivent vraiment à communiquer. Et puis ils finissent par lui dire: « Mais pourquoi t'es habillé différemment des autres? » Ben, il dit: « Ben, moi, je suis voilà, évêque, je suis religieux, moi, je crois en Dieu, je prie et tout ça. » Ben, nous aussi, on prie. Ah, vous aussi, vous priez? Et quelle prière vous faites? Il dit: nous, on prie Dieu en disant, tu es trois, nous sommes trois et nous nous aimons. Et l'évêque dit: bon, moi, je vais vous apprendre une prière. Et il leur apprend la prière de Jésus. Et ils passent du temps autour de la parole et à prier ensemble. Et puis le bateau est réparé. Et puis l'évêque s'en va. Et puis 2 ans après, il décide alors qu'il est encore en voyage, il passe près de cette île et il demande au capitaine de détourner le bateau pour aller voir ses amis-là. Et alors que la nuit tombe, ils entrent dans la rade et ils attendent le lendemain matin pour accoster les canots. Et puis là, ils voient trois lumières s'arrêter vers le bateau. On l'appelle, tout le monde regarde et il voit ces trois lumières avancer. Et puis il y a ses trois amis qui sont là, qui sont venus le saluer. Et ils sont là avec leurs lampes, marchant sur l'eau. Et ils disent: oh, nous savions que tu allais revenir. Et c'est terrible, parce que nous avons oublié la prière que tu nous as enseignée. On connaît notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta. Et après, on ne sait plus. Et là, l'évêque les regarde et dit: continuez avec. Tu es trois, nous sommes trois et nous nous aimons. C'est toute une histoire de relation, la prière. C'est pas une histoire de s'arrêter 1 heure et dire: bah, maintenant je vais prier parce que c'est dans mon programme, ou maintenant je vais lire la Bible parce que c'est dans mon programme. C'est d'avoir envie de vivre cette relation avec Dieu. La nature du royaume des cieux, dans sa manifestation actuelle, nous est donnée par Jésus dans une image d'un petit enfant. Le Christ répond à la question des disciples. Et la question des disciples leur dit: ben, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus, à sa manière, leur donne cette image du petit enfant. Il est impossible d'être devenu humble et petit devant Dieu sans être ému de compassion pour les petits, pour les humbles que les ambitieux méprisent. Hier, Mathias, on était dans la voiture et on rentrait à la maison du McDonald's et Mathias fait une convulsion à l'arrière de la voiture. Et puis, ben, on s'arrête et puis on prend soin de lui. Et puis, c'était une bonne convulsion. Et puis, on s'est regardé avec Marie-Léna et on s'est dit, bizarrement, dans un moment comme ça, ben, ça c'est, on est dans le réel. On est dans le réel de l'existence, là. On n'est pas dans quelque chose, dans le divertissement, non, on est dans la réalité des choses. Prendre soin de quelqu'un. Et je le dis toujours, mais quand vous prenez soin d'un petit ou de quelqu'un qui est dans le besoin, eh bien c'est la plus grande leçon que vous pouvez et la plus belle leçon que vous pouvez recevoir dans votre existence. C'est celle-là. C'est celle de voir un peu plus du royaume des cieux. Et ces faiblesses dans l'humanité, à travers les handicaps dans l'humanité, la maladie, que nous pouvons voir le royaume des cieux. C'est pour ça que Jésus leur montre ce petit enfant aussi. Dans ce monde, on est trop préoccupé par soi-même, on est trop préoccupé par ses biens, par son argent, par sa famille, plutôt que par les autres, et en particulier ceux dont on n'attend plus rien. Une collègue au travail me disait parfois, en parlant d'un patient que nous avions en commun, j'y ai pensé toute la nuit. Alors elle arrive, Pierre a dit, j'y ai pensé toute la nuit, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et à chaque fois qu'elle me disait cela, moi je me disais, mais moi, toute la nuit, j'ai pensé à moi, à mon petit entourage, à mes. Et là, Dieu me donnait une leçon. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir oublié de m'occuper, de me préoccuper des plus petits. Parce que se préoccuper des plus petits, c'est recevoir le Seigneur lui-même. Et je vous renvoie à Matthieu chapitre 25, que vous pourrez lire si vous voulez. Hein, si c'est Jésus qui dit « Vous m'avez visité, j'étais en prison, hein, vous m'avez donné à boire quand j'avais soif, et à manger quand j'avais faim, vous m'avez vêtu quand j'étais nu. » Et les disciples lui demandent « Mais quand t'avons-nous vu avoir faim, soif ?» Tout ce que vous avez fait à ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Celui qui a commencé à se donner aux autres rentre dans son salut. C'est pas que ça lui donne le salut du tout, mais il met en œuvre son salut. Ce que Dieu a fait pour lui, donner sa vie. En accueillant son prochain, on accueille Jésus-Christ, on accueille Dieu. Et d'une certaine manière, on se délivre de soi-même. Vous savez comment on se délivre du pouvoir de l'argent? Il y a une façon de se délivrer du pouvoir de l'argent dans sa vie. C'est de prendre une grosse somme d'argent, hein, qu'on a à soi, et de la donner à quelqu'un qui en a besoin. C'est un geste, mais il y a quelque chose qui nous délivre. Je vous assure que ça marche. C'est une manière de faire pour se délivrer du pouvoir de l'argent. Et de la même manière, pour se délivrer du regard qu'on a égocentrique de soi-même, c'est de se préoccuper de petits. Et ça marche. Ce n'est pas une technique. D'accord ? Nous parlons de choses spirituelles. C'est on désamorce des choses spirituelles qui se sont des chaînes qui se sont mises dans notre existence. Il y en a beaucoup qui disent que notre plus mortel ennemi, c'est nous-mêmes. Et c'est en nourrissant notre ego que le diable nous met dans l'inquiétude et nous rend aveugles aux besoins des autres. Et je vais terminer juste avec... c'est une citation d'un poète qui s'appelle Thomas Stern Eliot, T.S. Eliot, qui a écrit ceci, et ça c'est pour le royaume des cieux. Croire au surnaturel ne signifie pas simplement croire qu'après avoir vécu une vie réussie, comblée sur le plan matériel et assez vertueuse, nous continuerons d'exister dans le meilleur substitut possible à ce monde, ni qu'après avoir vécu une existence faite de privation ou de frustration, nous nous rattraperons et que tout ce dont nous avons été privés en ce monde sera compensé là-haut. C'est croire que le surnaturel est la plus grande réalité ici et maintenant. Jésus continue au chapitre 18 avec cette parabole. Après avoir dit « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Et il dit à ses disciples « Que vous en semble ? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour cette parole pour nous aujourd'hui. Cette parole que tu as donnée à tes disciples. Et Seigneur, peut-être nous avons conscience de cela maintenant, là tout de suite. Mais Seigneur, je te prie que nous n'oublions pas cela demain matin, en nous réveillant, en pensant à cette journée de demain, à cette semaine à venir, en nous disant « Tu as préparé plein de bonnes œuvres, des rencontres formidables, des choses formidables à faire pour ton œuvre, pour ton royaume. Seigneur, montre-nous plus de ton royaume. Aide-nous à être plus dépendants de toi, à nous attendre de ta présence, à nous attendre des choses que tu as préparées pour nous. Merci Seigneur pour nous faire participer à ton royaume, nous faire confiance, pour avoir mis ton évangile dans nos vies et pour nous en avoir fait les porteurs en ce monde. Bénis-nous Seigneur et aide-nous à te rester fidèles par le nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you.